Il te supplie de revenir et il te dit que t'ai-je fait pour que tu m'aies oublié? Les paroles les plus touchantes de la Bible sont les appels que Dieu adresse à ceux qui l'ont abandonné sans cause. Je n'exagère pas en disant que j'ai vu des centaines de chrétiens infidèles revenir à Dieu. Pas un d'eux n'a nié que ce fût une chose amère et mauvaise que de se détourner de son Dieu, comme l'exprime si bien le verset cité plus haut. Voyez l'exemple de l'eau. N'a-t-il pas été amer pour lui, ce séjour au milieu des méchants qui habitaient Sodome? Pendant les 10 ans qu'il y demeura, il ne fit pas un seul prosélyte. Il prospérait aux yeux du monde, on vous aurait même dit, dans Sodome, qu'il était un des hommes les plus riches de la ville. Mais, hélas, il avait ruiné sa famille. Quel triste spectacle que celui de ce vieillard infidèle, se sauvant de Sodome à minuit, après avoir averti ses enfants, qui refusent de l'écouter. J'ai connu, il y a plusieurs années, un vieillard qui habitait une de nos cités américaines. Il avait erré pendant longtemps dans les plaines stériles du péché. Un soir, il désira se repentir et revenir à son sauveur, qui l'avait abandonné. Nous prièmes ensemble, nous prièmes encore, nous prièmes longtemps, jusqu'à ce qu'enfin la paix descendit dans son âme, et il s'en alla plein de joie. Le soir suivant, il s'assit sur le banc, en face de moi pendant que je prêchais, il avait l'air si triste, si découragé, qu'il faisait mal à voir. Il me suivit dans la sacristie. Qu'avez-vous ? Lui demandai-je, avez-vous de nouveaux doutes ? N'avez-vous plus les yeux fixés sur votre sauveur ? Non, me dit-il, ce n'est pas cela, mais j'ai des raisons d'être triste. Hier je ne suis pas allé à mon bureau, j'ai voulu rendre visite à mes enfants qui sont tous mariés. Tous se sont moqués de moi. C'est aujourd'hui le jour le plus triste de ma vie. Je récolte ce que j'ai semé, j'ai mené mes enfants dans le monde, et maintenant je ne puis plus les en arracher. Le Seigneur rendit sa joie aux pécheurs repentants, mais les conséquences amères de la transgression ne pouvaient être ôtées? Consultez ceux qui ont de l'expérience et vous verrez que les mêmes péchés ont les mêmes résultats en France qu'en Amérique. C'est que la chute spirituelle des parents est toujours la ruine morale des enfants. Soyons fidèles envers ceux qui se sont détournés de Dieu. Prenons la Bible en main et essayons de les convaincre. Nous trouvons ces paroles. Jérémie 8, 5-7. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait, aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Je me suis rendu attentif, mais ils ne parlent pas avec droiture. Point de culte de famille, point de lecture de la Bible. Point de prière du cabinet. Dieu incline son oreille pour écouter, mais il n'entend rien. Ah! Si ces lignes tombent sous les yeux de quelques chrétiens déchus, mais désireux d'être pardonnés et réhabilités, il ne peut y avoir des paroles plus tendres que celles-ci. Jérémie 3, 12-14 va, crie ses paroles vers le septentrion, et d'y revient un fidèle Israël. Dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Remarquez bien cette expression, reconnais ton iniquité. Combien de fois n'ai-je pas montré ce passage à un chrétien tombé? Un homme me dit un soir, qui a prononcé cette parole, est-elle bien dans la Bible? Alors je lui montrai le passage. Le pêcheur tomba à genoux et s'écria « Mon Dieu, j'ai péché !» Ce fut bien simple et pourtant Dieu lui rendit la paix. Allez, faites de même. Dans un autre endroit, nous trouvons ces mots. Osée 6, 4, que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Plus loin, le même prophète continue « Ô Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par une iniquité. Apportez avec vous vos paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement et nous t'offrirons les sacrifices de nos lèvres. Observez ce mot « revenez » qui résonne dans chaque page. Nous lisons Apocalypse 2, 4 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Je désire attirer votre attention sur la manière dont Pierre est tombé, car beaucoup tombent de la même façon que lui. Aussi l'exemple de Pierre est-il terrible, celui de Judas plus terrible, encore que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. La plupart de ceux qui sont tombés ont donné dans des faiblesses où il paraissait impossible qu'ils tombassent. Si un homme se croit invulnérable sur un certain point de son caractère, c'est sur ce point-là qu'il doit veiller, car c'est celui-là que l'ennemi choisira de préférence. Le premier pas de Pierre dans sa chute fut sa confiance en lui-même. Le Seigneur l'avertit en lui disant Luc 22, 31-32 Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre lui répondit aussitôt Matthieu 26, 33-34 Pierre, prenant la parole, lui dit quand tu serais, pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Malgré tout, Pierre continue à dire qu'il est prêt à le suivre jusqu'à la mort. Cette assurance est souvent le précurseur de la chute. Marchons humblement et doucement. Nous avons un grand tentateur, et dans une heure prochaine nous pouvons être surpris et donner du scandale à l'Église et au monde. Le second degré dans la chute de Pierre est le sommeil. Si Satan peut assoupir l'Église, il se sert des chrétiens même pour faire son œuvre. Au lieu de veiller une heure à Gethsémané, Pierre s'endort et il oblige le maître à faire cette question. Matthieu 26, 40 et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ?» Le troisième pas qu'il fait vers la chute, c'est de se confier aux forces charnelles pour le combat qui va se livrer. Le Seigneur le reprend encore. Matthieu 26, 52 « Alors Jésus lui dit « Mets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Jésus, dans cette occasion, doit refaire ce que Pierre a fait guérir l'homme dont l'oreille a été amputée. Ensuite, Pierre suit de loin. Pas à pas, le disciple courageux s'éloigne et finit par abandonner son maître. Quelle chute se prépare quand un enfant de Dieu s'éloigne des bonnes choses, quand il s'associe aux plaisirs mondains, quand ses amis sont choisis dans le monde. Il ne tarde pas, en bien des cas, a déshonoré un nom respecté, et Jésus est de nouveau trahi par l'un des siens. Et l'exemple de ce chrétien déchu, quelle pierre d'achoppement pour les faibles. Pierre se familiarise avec les ennemis de Christ. Matthieu 26, 68-74 en disant Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau « Avec serment, je ne connais pas cet homme. » Peu après, Ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Il commence par la présomption et, pas à pas, il est conduit jusqu'au triple reniement. À ce moment, le Seigneur aurait pu l'accabler par des questions, par des reproches, mais non, rien de tout cela. Jésus regarde Pierre. Oh ! Ce regard, de quelle tendresse, de quel amour n'était-il pas rempli ? Le cœur de l'infidèle disciple se brise, il sort et pleure amèrement. Après la résurrection, voyez comme Jésus agit avec tendresse envers ce disciple rebelle. L'ange qui se tenait dans le sépulcre dit Matthieu 16, 7, les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ?» Le Seigneur n'oublie pas Pierre, quoique celui-ci l'ait renié trois fois, et il envoie un message spécial aux disciples repentants, que notre Sauveur attendrait qu'il est aimant. Chers amis, venez à lui. Que le regard aimant du Maître gagne votre cœur et qu'il puisse vous rendre la joie de son salut. Avant de terminer, laissez-moi espérer que ces pages ramèneront à Dieu quelques chrétiens égarés. Nous n'aurions jamais eu le 32e psaume si David n'avait pas été pardonné heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Le psaume 51 n'a-t-il pas été écrit par un enfant de Dieu en état de chute à qui Dieu avait rendu la paix du cœur? Je prie Dieu qu'il daigne ramener ses enfants égarés et les rendre mille fois plus utiles qu'ils ne l'ont jamais été. Il entendra cette prière? Chapitre 9. Un divin sauveur. Jean 6, 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous nous occuperons dans ce chapitre de ceux qui, désireux de suivre la vérité, ne peuvent cependant croire à la divinité du Christ. Il y a beaucoup de passages propres à éclairer sur ce point. Le Nouveau Testament tout entier proclame cette doctrine. L'apôtre dit 1 Corinthiens 15, 47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. 1 Jean 5, 20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et encore, Jean 18, 3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Matthieu 26, 62-67 Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Voici ce qui m'a conduit, pour ma part, à croire à la divinité du Christ. Je ne savais où le placer, ni que faire de lui, s'il n'était pas Dieu lui-même. Dans ma jeunesse, je considérais Christ comme un grand homme, je le mettais au rang de Moïse, de Joseph et d'Abraham. J'allais même plus loin, et le considérais comme le meilleur de ceux qui ont vécu ici-bas. Mais je découvris qu'il avait des prétentions plus hautes. Il se dit l'homme Dieu, il prétend être divin et être descendu du ciel. Il a dit, Jean 8, 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je ne pouvais comprendre cela et je fus réduit à cette conclusion à laquelle je défie tout homme sincère de ne pas arriver comme moi, que Jésus, Christ, a été un imposteur ou qu'il est vraiment l'homme-Dieu, Dieu manifesté en chair. Il n'était pas un imposteur, dit-on, mais un halluciné, il croyait à sa propre divinité? Comme s'il était possible que Jésus-Christ, qui nous a révélé la vérité sur tant de mystères, pût être aveugle à ce point sur son propre compte. Je ne puis imaginer une conception du Christ plus misérable que celle-là. Peut-on lire la vie de Jésus-Christ et ne pas reconnaître aussitôt l'absurdité de la supposition qu'il fût un imposteur? Un imposteur a généralement de bonnes raisons pour l'être. Quelle était celle de Christ? Il savait que ses prétentions le conduiraient à la croix, que son nom serait maudit, que beaucoup de ses disciples devraient mourir pour sa cause? Presque tous les autres furent immolés, ils furent considérés, durant leur vie, comme la balayure du monde. On ne se condamne pas à une longue hypocrisie, sans de puissants motifs, et personne n'en saurait trouver pour expliquer l'imposture supposée de Jésus-Christ. Nous lisons Jean 5, 21-4, « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut ?» Remarquez ceci par la loi mosaïque, tout blasphémateur était condamné à mort, or, si Christ n'était qu'un homme, les paroles ci-dessus sont absolument blasphématoires. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Aucun prophète n'a osé, en parlant de lui-même, tenir un langage semblable. Et c'est pour avoir ainsi parlé de lui-même que les Juifs mirent Jésus à mort. Matthieu 26, 63-66, Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. » Que vous ensemble ? Ils répondirent, ils méritent la mort. Jean 10, 30-33, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapidaire. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Or, si Jésus-Christ n'était qu'un homme, les Juifs eurent raison de le tuer et, selon la loi que Dieu leur avait donnée. Voici ce qui est écrit Lévitique 24, 16, celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. C'est d'après cette loi que les Juifs le condamnèrent et ils ne sont pas coupables s'il n'était vraiment pas le Fils de Dieu. Comment Jésus pouvait-il n'être qu'un homme? Comment serait-il le meilleur des hommes? En tenant le langage suivant, tout ce que le Père a est à moi, c'est pour cela que je dis qu'il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Jamais un doute sur sa divinité n'est entré dans mon esprit depuis ma conversion. Un homme qui avait longtemps vécu dans le péché et à qui l'on demandait de prouver la divinité du Christ répondit une preuve. Mais il m'a sauvé. Il me semble que celle-là doit suffire. Notre Christ est vivant. Bien des personnes semblent ignorer qu'il est sorti du tombeau. Elles adorent un sauveur mort, comme Marie-Madeleine qui disait Jean 20, 13, ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Voilà l'embarras de ceux qui doutent de la divinité de Jésus. Lisez encore. Matthieu 18, 20, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comment peut-il être là s'il n'est qu'un homme? Matthieu 28, 18, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre? Quel langage dans la bouche d'un simple homme. Matthieu 28, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment pourrait-il être avec nous s'il était mort comme tous les autres et gisait encore dans le tombeau? Mais, dira-t-on, Élisée, lui aussi, n'a-t-il pas ressuscité des morts? Remarquez que, dans les rares occasions où des hommes ont tiré des morts hors du sépulcre, ce fut par la puissance de Dieu. Ils invoquaient son secours. Mais, lorsque Christ était sur la terre, il n'avait pas besoin d'invoquer le secours du Père pour ramener des morts à la vie. Quand il entra dans la maison de Jaïrus, il dit, Marc 5, 41, il la saisit par la main et lui dit Talitakoumi, ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Ce jeu est important. Il avait le pouvoir de donner la vie. « Jeune homme, je te le dis, lève-toi », dit-il au fils de la veuve de Naïn. Il parle et le mort se lève. De même pour Lazare, heureusement, a dit quelqu'un, que Jésus appela Lazare par son nom, autrement, tous les morts qui étaient à portée de sa voix auraient répondu à son appel. Dans Jean 5, 25, Jésus dit Jean 5, 25 en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Quel blasphème s'il n'eût pas été véritablement le Fils de Dieu! Encore une preuve de sa divinité, c'est que jamais un homme juste et bon ne s'est laissé adorer, excepté Jésus. Quand on l'adore, il ne reprend pas celui qui agit ainsi. Nous voyons que l'aveugle guéri rencontre Jésus et lui dit Jean 9, 38, et il dit « Je crois, Seigneur ?» Et il se prosterna devant lui. Et le Seigneur le laissa faire. Apocalypse 22, 9, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Remarquez que cet ange même ne permet pas à Jean de l'adorer. Un ange du ciel. Si Gabriel lui-même descendait au milieu de nous, ce serait un péché que de l'adorer ou toute autre créature céleste. Voyez, au chapitre 14 des Actes, l'histoire de Paul et Barnabas refusant les honneurs divins à Lystre. Adore Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu manifesté dans la chair, nous sommes, chacun de nous, coupables d'idolâtrie. Alors, tous ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant. Matthieu 14, 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et Jésus ne les blâma point. Voyez encore, Matthieu 8, 2 et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Matthieu 15, 25 mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Il y a beaucoup d'autres passages, mais ceux-ci suffiront, je l'espère, pour prouver que le Nouveau Testament enseigne la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ.